France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. 7-9.
Lundi 6 septembre, bonjour à tous et bienvenue dans un 7-9 spécial alors que s'ouvre une semaine particulière. Mercredi, on le verra dès le début du journal, commence le procès hors norme des attentats du 13 novembre 2015. Et samedi prochain, 11 septembre, cela fera 20 ans qu'ont eu lieu les attentats du World Trade Center, des attentats qui ont changé le monde et sur lesquels on s'arrêtera longuement ce matin à 7h15. Le zoom sur le seul survivant du commando terroriste du 13 novembre, Salah Abdeslam, et première invitée, Léa, avec vous à 7h50.
Oui, c'est le parquet national terroriste qui portera l'accusation lors de ce procès hors norme. Le premier procureur antiterroriste de la République, Jean-François Ricard, sera notre invité à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui dialoguera évidemment avec vous au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Bonjour Anaïs Feugat.
Bonjour Nicolas.
Les autres titres de l'actualité.
En Afghanistan, en effet, de la dernière résistance aux talibans, ils annoncent avoir pris le contrôle de la vallée du Panjshir. Nous serons avec les réfugiés afghans à Islamabad. Du mieux en France, du côté de l'épidémie de Covid, mais avec le variant Delta, masque et vaccination restent deux piliers de la prévention. Et puis paillettes et fans, nous serons à Deauville avec Johnny Depp en fin de journal.
France Inter.
Ce sont les pires attentats que la France ait connus. Les attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et Paris. Le procès exceptionnel s'ouvre mercredi, alors que quelques jours plus tard, samedi, on commémore les 20 ans des attentats de New York. Journée spéciale aujourd'hui sur France Inter. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Anaïs.
Vous allez suivre ce procès pendant les mois qui viennent. Jamais en France, la justice antiterroriste n'a jugé des faits si effroyables avec autant de victimes.
130 morts et 10 fois plus de blessés dans leur chair ou dans leur âme. Selon la justice, il y a déjà 1800 parties civiles constituées et des survivants ou proches de victimes peuvent encore demander à l'être à l'ouverture de ce procès hors norme. Le simple appel des parties civiles va durer 2 jours entiers à ce procès des attentats du 13 novembre 2015.
Et donc procès pour lequel on a construit une salle spéciale.
Une immense salle de 45 mètres de long dans le vieux palais de justice de Paris, salle équipée d'écrans de retransmission car depuis les bancs du fond, on aura du mal à distinguer les magistrats de la cour d'assises spéciale et les accusés dans leur box de verre. Même cette énorme salle ne suffira pas à accueillir toutes les parties civiles et les 300 avocats. Alors, l'audience sera retransmise dans une dizaine d'autres salles, ainsi que sur une web radio dédiée aux victimes. Et le procès sera aussi filmé pour l'histoire.
Et procès aussi, Sophie, sous très haute sécurité.
Avec un périmètre de sécurité jamais vu encore, une partie des rues inaccessible chaque jour pendant plusieurs heures sur l'île de la Cité. Dans le palais de justice, il y aura des centaines de gendarmes épaulés par la BRI, policiers et gendarmes d'élite pour escorter sous très haute surveillance les accusés. 20 accusés jugés, mais 14 présents. Le plus connu d'entre eux, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos à Paris, qui avait finalement jeté sa ceinture d'explosifs dans une poubelle.
Sophie Parmentier sur franceinter.fr, l'interview du juge d'instruction qui a interrogé Salah Abdeslam, tous ses reportages aussi sur les faits, l'enquête et les victimes, et puis tout à l'heure, le zoom de la rédaction. Hier, en région parisienne, un homme fiché S a été mis en examen, interpellé le 1er septembre, soupçonné d'avoir commandé une Kalachnikov et des munitions aux États-Unis. Le colis a été intercepté par la police. Et puis une fusillade cette nuit en Floride. Un ancien tireur d'élite de l'armée américaine, 33 ans, vétéran des guerres en Irak et en Afghanistan, a tué 4 personnes, dont un nourrisson, dans les bras de sa mère. La dernière résistance en Afghanistan, défaite, les talibans l'annoncent à l'instant. Ils disent avoir pris le contrôle complet de la vallée du Panjshir. Nous ferons le point dans le journal de 8h. Dans le pays, la catastrophe humanitaire est imminente selon l'ONU. Les talibans viennent de s'engager à garantir la sécurité des travailleurs humanitaires car la moitié des 38 millions d'habitants en ont besoin. Et nombreux sont ceux qui, pour quitter le pays, prennent la route de la frontière avec le Pakistan. 3 millions de réfugiés afghans s'y sont installés depuis 40 ans, à tel point qu'à Islamabad, une rue a été surnommée le Kaboul Market. Reportage de notre envoyé spécial Mathilde Imi.
Zahir Shah récupère d'une main la monnaie et tend de l'autre du pain chaud au client. Il a fui l'Afghanistan sous contrôle russe il y a 40 ans.
J'implore Dieu qu'il nous apporte sa pitié car les talibans sont plus cruels que les Russes. Pendant 40 ans, j'ai eu l'espoir de retourner dans mon pays. Mais là, j'ai abandonné.
Derrière lui, son fils, Zubair Khan, façonne la patte.
Si la paix est rétablie et que les affaires reprennent, nous reviendrons en Afghanistan. Mais que vaut la paix sans travail ?
Depuis un mois, ces boulangers ont de nouveaux clients, comme Mohamed Zahir et sa famille, qui ont tout laissé à Kunduz.
On a décidé de fuir car les combats se sont intensifiés dans les airs et à terre. D'un côté les talibans, de l'autre l'armée afghane. On était coincés au milieu, notre vie était en danger.
Il se plaint des conditions de vie car il n'a rien à Islamabad. Khairullah vient d'arriver, il a perdu une partie de sa famille dans des bombardements américains après le 11 septembre.
L'histoire se répète, il n'y aura jamais la paix en Afghanistan, c'est une guerre sans fin. Là, ce sont les talibans, mais Daesh progresse, et après on aura un nouveau groupe djihadiste.
Le gouvernement pakistanais a déjà prévenu qu'il ne voulait pas accueillir tous les réfugiés afghans. Islamabad, Laurent Maketti, Mathilde Dehimi, France Inter.
Mathilde Dehimi et Laurent Maketti qu'on retrouvera en longueur ce soir dans le 18-20 de Fabienne Sintès. Les États-Unis, à leur tour, condamnent le coup d'État en Guinée. Le président Alpha Condé, 83 ans, arrêté hier par des hommes armés. Le chef des putschistes dit vouloir réécrire la constitution de la Guinée, l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses ressources minières et hydrologiques considérables.
France Inter, il est 7h06, moins de 11 000 malades du Covid hospitalisés.
Leur nombre a encore diminué hier, très léger mieux aussi en soins critiques. Côté vaccination, plus de 49 millions de personnes ont reçu au moins une injection. Alors peut-on tomber le masque ? Possible depuis le 9 août dans les lieux clos soumis au QR code. Mais le variant Delta s'en mêle, Hélène Chevalier.
Nous pourrons bientôt tomber le masque, c'est le principe du pass sanitaire.
En juillet dernier, c'était l'argument principal d'Olivier Véran, venu défendre dans le 20h de France 2 la mise en place du pass sanitaire.
On va juste vérifier que le variant Delta n'a pas fondamentalement changé la donne, mais à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes partis pour pouvoir lever l'obligation de port du masque dans les endroits où le pass sanitaire s'applique.
Pourtant, dans le courant de l'été, des études ont montré que le variant Delta n'empêchait pas les personnes vaccinées d'être infectées ou de contaminer, ce qui aurait pu remettre en cause le port du masque en intérieur, concède les épidémiologiste Arnaud Fontané.
Quand vous êtes vacciné, vous diminuez quand même d'au moins 60% votre risque d'être infecté et vous diminuez encore de 50% votre risque de transmettre à quelqu'un d'autre. Donc les vaccinés transmettent moins que les non-vaccinés, mais la protection n'est pas parfaite et c'est pour ça qu'il est important que les vaccinés continuent de se protéger.
Remettre en place les gestes barrières dans les lieux clos, même avec le pass sanitaire, c'est ce que recommandait Arnaud Fontané et le Conseil scientifique fin août. Auteur également de cette note d'alerte, le professeur Olivier Guérin craint en effet que l'épidémie prennent de la vigueur.
On va vers des jours qui vont être un peu plus frais, un peu plus pluvieux. On sait que à la fois le virus va être plus actif par nos comportements plus d'intérieur et puis par sa propre vie de coronavirus qui fait que dès que les températures se rafraîchissent, il devient encore plus contagieux potentiellement.
Le ministère de la Santé n'a pour le moment pas prévu de changer son décret. Il reste en effet encore près de 10 millions de personnes à convaincre de se faire vacciner.
La pandémie de Covid-19 prendra fin, mais il n'existe aucun vaccin contre la crise du climat. Ces mots de l'OMS repris à leur compte par 220 journaux médicaux dans le monde. Dans un éditorial commun sans précédent, le Lancet, le British Medical Journal font la liste des désastres sur la santé déjà causés par l'augmentation des températures, déshydratation, morbidité cardiovasculaire, sans compter la malnutrition causée par les mauvaises récoltes. Ces journaux médicaux appellent à mobiliser autant d'argent pour la planète que lors de la pandémie, changer l'organisation de nos sociétés, cercle vertueux pour agir sur notre santé. 27 milliards de dollars, le méga contrat de Total Energy en Irak, officialisé hier. Production de gaz, de pétrole et d'énergie solaire, le plus gros investissement d'une entreprise occidentale en Irak. Quand les objets connectés deviennent des auxiliaires de police, le Forum international de la cybersécurité s'ouvre aujourd'hui à Lille, où comment traquer la criminalité sur Internet. Ariane Grissel, nous avons tous dans notre quotidien des objets connectés qui finissent par parler.
Téléphone portable, box Internet, GPS de voiture, ces objets collectent tous des données numériques, autant d'indices potentiels sur une scène de crime. Le colonel Nicolas Duvinage dirige à la gendarmerie un service dédié à leur exploitation, la division de l'appui aux opérations numériques.
Ça peut se monter à plusieurs dizaines d'objets connectés. Ils vont tous être prélevés, mais il y a un besoin d'avoir des éléments cruciaux dès les premières heures de l'enquête. Donc il ne faut pas que l'enquêteur soit noyé. Et donc on va l'aider aussi à prioriser et à identifier ces objets.
Une montre connectée, par exemple, peut s'avérer riche en informations.
La personne nous dit « je dormais » ou « j'étais à mon bureau ». En fait, on voit qu'elle a fait X pas pendant le créneau qui nous indique.
C'est une de ces montres connectées qui a trahi un homme se disant traumatisé par l'incendie de sa maison. Les données enregistrées ont révélé que son rythme cardiaque n'avait pas changé au moment du départ de feu, qu'il
est donc soupçonné d'avoir déclenché. Parfois, les objets connectés ont été très abîmés. La gendarmerie est donc dotée d'un laboratoire chargé de faire parler ces supports à première vue inexploitables. 27 experts dirigés par le lieutenant-colonel Cyril Debar.
60%, 70% de notre activité aujourd'hui, c'est sur de la téléphonie. Un téléphone qui reste dans l'eau immergée un petit moment, on va le faire sécher, on va le nettoyer et on va ouvrir carrément le composant pour accéder directement à la donnée. Et on monte crescendo dans la technicité.
Le tout généralement sans l'aide des fabricants d'objets connectés puisque beaucoup ont fait justement de la confidentialité des données un argument commercial.
Passage de flambeau au Rassemblement national dans moins d'une semaine. Samedi à Fréjus, Marine Le Pen cède la place à Jordan Bardella à la tête du parti pour se consacrer à sa campagne qui ne commence pas, Élodie Forêt, sous les meilleurs auspices.
Septembre 2016, Fréjus, le FN organise ses estivales. Des milliers de militants, des conférences, des stands et une Marine Le Pen en pleine dynamique.
Ce moment marque le début de la mobilisation de cette campagne présidentielle si décisif pour le pays.
Septembre 2021, Fréjus toujours, mais un programme réduit, des réunions à huis clos, suivies des discours de Marine Le Pen et Jordan Bardella. La faute, nous dit-on, à la crise sanitaire. Plus inquiétant encore selon un élu, les sondages il y a 5 ans, on nous donnait autour de 30%. Aujourd'hui, on est à 21%. Et certains cadres ont beau le jurer, la page des régionales est tournée. Il y a bien des séquelles. Certains cadres, critiques de la stratégie d'ouverture, ont été évincés des instances, comme le niçois Philippe Vardon. L'entourage de Marine Le Pen s'est encore plus resserré, commente un ancien du FN. Plane enfin l'ombre d'Éric Zemmour, dont la candidature risquerait de diviser le camp national, soupire un député européen. Comme un signe de fébrilité, Jordan Bardella reprenant à son compte récemment la théorie du grand remplacement, soutenue depuis longtemps par le polémiste, tentative d'occuper l'espace radical quand Marine Le Pen s'emploie depuis des mois à se recentrer.
En voilà un, en tout cas, dont la cote de popularité est intacte. Johnny Depp, le phénomène du festival du film américain de Deauville. Si l'on en croit les images de fans agrippés à sa voiture, l'acteur est venu présenter son nouveau film City of Lies, Alexis de Meyer à Deauville.
Un bain de foule après une longue diète médiatique pour cause de démêlés judiciaires. Pendant 2 heures, le comédien francophile a rembobiné le fil de sa carrière devant une salle comble.
On n'est pas mal, on est bien. On est cassé, mais on est là.
20 ans, tout pile après sa première apparition à Deauville, Johnny Depp nous confie sa tendresse pour cette fête du cinéma US.
Ce festival met en lumière des jeunes cinéastes aux univers très variés. Cannes est un grand cirque, alors que Deauville m'a toujours fait penser à un foyer accueillant pour les réalisateurs, les cinéphiles, les gens qui respectent le cinéma. Very Bad Trip n'est pas projeté ici et j'admire ça.
L'acteur de 58 ans revient avec City of Lies, un film très politique sur fond de corruption et de racisme au sein de la police de Los Angeles.
Quand vous avez l'opportunité avec un film de transmettre aux spectateurs d'importantes informations, d'exposer des éléments d'une enquête jamais révélée pour diverses raisons, vous avez le sentiment de faire quelque chose de bien.
Mais ce film n'a pas trouvé de distributeur aux États-Unis, il a été kidnappé par Hollywood, selon Johnny Depp.
Et si vous voulez réécouter Johnny Depp, sachez que son interview, c'est en longueur sur franceinter.fr.
Merci Anaïs Feugat.